Notre invité du jour pour ce question d'actualité du jeudi 9 février, c'est Steve Fortin. Bonjour Steve.
Oui, salut.
Donc avec toi, on va revenir un peu sur un sujet qui a fait l'actualité dernièrement. C'est au-delà de l'affaire Elga Wahabi. C'est un peu le retour, ou plutôt la réemphase telle qu'on peut le voir au travers de l'islam politique, des concepts d'islamophobie, mais aussi de l'intermédiaire de tout ce qui est lié à les questions d'accommodement et autres signes religieux. C'est un peu le retour de la religion en politique. Cette idée, elle nous est venue en voyant une des lettres dans la section « Faites la différence » ces dernières fins de semaine dans le Journal de Montréal, qui s'appelle « Que fait la religion au cœur de l'État ?» Une lettre de Louise Mailloux, philosophe. Et c'est un sujet extrêmement intéressant, surtout avec cette affaire Elga Wahabi. Et ma première question, tout d'abord, Steve, c'est qu'est-ce que tu penses de ça, et est-ce que ce retour de la religion en politique, surtout quand nous, au Québec, on a un peu la mise en avant de notre laïcité, ça démontre de plus en plus notre différence face à l'ensemble des Canadiens?
Ben, c'est évident que dans ce débat-là, il y a deux visions diamétralement opposées qui s'affrontent, et puis la distinction québécoise ici, elle est franchement et indubitablement affirmée par un désir de séparer complètement l'institutionnel et puis le fait religieux. Et ça, ça s'est incarné depuis longtemps dans nos débats. Ça s'est amorcé avec la déconfessionnalisation. Et pour information comme ça, ou une petite anecdote, on aurait fêté hier les 94 ans de ma grand-mère maternelle. Elle avait reçu une médaille de l'Assemblée nationale, Mme Cécile Morin, pour son implication dans l'Association des retraités de l'enseignement. Mais plus que ça, pour son travail aussi de recension de ce que c'était la vie des enseignantes de rang, donc ces maîtresses d'école, comme on les appelait à l'époque, dans des rangs à qui on demandait de faire l'école dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. Et j'ai eu la chance, beaucoup pendant le premier débat sur la laïcité au Québec, quand le Parti québécois avait déposé le projet de loi 60, j'avais eu l'occasion de beaucoup discuter de ça avec elle, la déconfessionnalisation, pour mieux comprendre
qu'est-ce qu'elle avait pu te dire?
Ben, c'est ça, c'est que ce qu'elle avait fait ensuite dans nos discussions, c'est que elle avait rassemblé, c'est une personne très, très organisée, elle avait rassemblé toute la documentation de formation d'une jeune enseignante de rang. Elle avait commencé à enseigner, imaginez, à 14 ans. Puis elle m'avait montré, voici c'était quoi la formation que suivais. Le programme, c'était 100% religieux. J'ai encore toute cette documentation-là avec moi. Et quand je regardais ça, je me disais, OK, dans le fond, la formation, l'école de rang, c'était littéralement, ses fondements, c'était l'enseignement catholique, les bonnes manières, c'était le catéchisme. Il n'y avait que ça. Un peu de latin, un peu de français, si on allait un peu plus loin. Mais tout était religieux. Pour ces enseignantes-là,
tout ce qui était sciences humaines, sciences et autres ne faisait pas partie de l'enseignement. C'était vraiment le religieux comme source principale de savoir. Et ça mène un peu à la question, c'est qu'on parle de toutes ces questions de religion dans la politique, et tout vient, on le dit souvent, d'un rapport qui s'appelait un rapport de 2018 présenté par la Chambre des communes qui s'appelle « Agir contre le racisme systémique et la discrimination religieuse, y compris l'islamophobie ». On pourra revenir sur la mise en emphase du terme « islamophobie » qui est assez étrange, surtout cette mise en avant, parce qu'il y a d'autres discriminations religieuses possibles, catophobie, discrimination contre les sikhs et autres, et encore, est-ce que ce sont vraiment des discriminations religieuses qui sont même de plus en plus affiliées parfois au racisme? Et donc ça mène à la question, est-ce que la religion est une race, équivaut à la race. Mais quand on voit ce genre de rapport et aussi d'autres rapports comme un de l'Ontario et de la Commission ontarienne sur les droits de la personne en 2012 qui appelle Protéger la liberté religieuse dans un Canada multiculturel, on voit que pour eux, l'idée de sécularisme est contraire en fait à l'intégration de personnes religieuses, des Canadiens d'origine sikh, musulmane, hindoue, chinoise ou juive, ainsi que les individus d'origine autochtone, ont de la difficulté à s'intégrer dans des structures sociales séculaires. Donc on voit que la laïcité et le sécularisme, pour eux, est contraire à l'idée de Canada post-national, multiculturel, et qu'il faudrait le détruire, d'où possiblement un retour du religieux. Tu penses quoi de ça?
Ben, c'est là, il faut faire attention ici parce que c'est pas la majorité. Là. Il n'y a pas de eux et nous, ou il n'y a pas de parce que s'il y a quelque chose que j'ai compris de tout le temps que j'ai passé au Canada, j'ai quand même travaillé dans cinq provinces différentes, c'est que, et on le voit, les enquêtes le montrent, il y a quand même là n'importe où entre 35 et 40, 43 % de gens qui croient à la sécularisation des institutions au Canada. Mmh. Malheureusement, on ne parle presque jamais d'eux, mais il y avait eu, on se souviendra quand il y avait eu le débat, ça avait parti en Colombie-Britannique, surtout en Alberta, le débat sur le fait que les personnes sikhs n'avaient pas apporté un casque quand ils faisaient de la moto. Et pourtant, c'était tout banal, c'était une anecdote. Mais là, tout à coup, c'était dans les années 80, on avait commencé à dire, mais non, les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Ensuite, c'était le port des signes religieux dans la GRC. Donc, on a vu ces débats-là et il y a quand même un sentiment de sécularisation, des gens qui appuient un principe de la laïcité. On le voit d'enquête en enquête au Canada et c'est plus fort au Québec. Donc, il ne faut pas mettre, premièrement, tous les Canadiens dans le même panier et certainement pas les musulmans qui sont au Québec ou même toutes les personnes religieuses qui arrivent au Québec. Encore une fois, on est à 40% et même plus de gens qui sont dans la collectivité anglophone ou, comme on dit, là, si on veut, là, qui appuient le principe de la loi 21. Donc, il faut faire cette distinction-là, il faut la faire, mais c'est vrai que dans le Canada post-national qui est en train de se construire maintenant et qui est la pierre angulaire de l'œuvre politique de Justin Trudeau, dans ce Canada-là, ben, il y a une lutte féroce à faire au principe même de la laïcité. Et quand le gouvernement de François Legault a fait adopter sa loi 21, c'était un des plus importants de gestes de rupture envers le Canada qui a été posé par le Québec depuis probablement la loi 101 ou la déclaration du français comme langue, comme seule langue commune par le gouvernement Bourassa. On est là-dedans.
Et donc, ça nous amène un peu à l'affaire El Gawabi. L'affaire El Gawabi, c'est une suite un peu des recommandations de ce rapport de 2018 sur agir contre la discrimination religieuse, y compris l'islamophobie. Et ça fait partie un peu de ces éléments d'application de la loi, de ces recommandations de l'application de la loi. Donc, ça nous mène un peu à l'affaire El Gawabi. Qu'est-ce que tu penses de ça, surtout par rapport à ces positions qui sont ces positions connues maintenant, connues par la plupart des gens du fait des affaires qui ont et de l'affaire qui a explosé. Est-ce que tu penses qu'on est maintenant un peu dans une nouvelle étape de cette immixtion du religieux? Et est-ce que tu penses que sa défense, en fait, montre au niveau du côté de Justin Trudeau qu'on est prêt à aller vraiment au maximum, au plus loin, pour un peu continuer au maximum cette immixtion du religieux, qu'importe ce que dit le Québec ou même d'autres gens au Canada anglais, comme on a pu le voir dans certaines réactions?
Oui, ça va être Justin Trudeau et les gens qui adhèrent à sa vision à lui du multiculturalisme et du post-nationalisme. Ces gens-là vont aller jusqu'au bout. C'est la même chose pour Amir Al-Gawabi. Elle va aller jusqu'au bout. C'est une militante radicalisée. Et ces gens-là ne reculent pas. Il n'y a rien qui va faire reculer cette personne-là. Elle va entrer dans son poste le 20 février. Puis, on va y aller tête baissée. Pourtant, les critiques, elles sont nombreuses. Et les propos de Mme El-Gawabi l'avaient discrédité. Et même, on aurait dû tout simplement ne pas la considérer pour ce poste-là. Je me demande quel genre de vérification on avait fait avant de la nommer. Et une des réactions les plus fortes est venue du Parlement provincial du Nouveau-Brunswick quand un député de descendance acadienne s'est levé et qu'il a dit, ben voilà, quand il disait que la misère des Canadiens français la faisait vomir, lui donnait la nausée, ben lui, il a rappelé que dans sa famille, on avait déporté. Ce que ça voulait dire d'avoir été déporté, et tout le sens de ça. C'est très puissant parce que là, on dépasse le clivage Canada-Québec. On entre dans les fondements même des deux peuples fondateurs et de ce qui s'est passé suite à la conquête et dans les années qui ont suivi. Et en ça, ne pas vouloir reconnaître, si on veut, les affres et les énormes douleurs du passé, ben il y a là-dedans aussi cette négation-là. C'est une négation même de qui on est. Le Canada fait ça, et qu'on fait ça et qu'on rappelle qu'est-ce qu'on a fait aux Premières Nations, ben tout de suite, la réprobation est générale. Mais quand on le fait, puis qu'on rappelle, par exemple, ce qui s'est passé avec les Canadiens français, les Québécois, moi, j'habite à quelques kilomètres de la cité, de l'endroit où est enterré Louis-Joseph Papineau. Totalement. Et puis ici, et quand on prend le chemin et qu'on s'en va vers Saint-Eustache, on le sait qu'on a brûlé des granges, qu'on a tué des gens, qu'on a pendu des cultivateurs ici. Mmh. Ben, c'est notre histoire, on peut quand même pas l'effacer. Et quand j'ai vu les propos de Mme El-Gawabi par rapport à ça, je me suis dit, cette personne-là, manifestement, ne connaît pas ou ne veut pas rien entendre des souffrances passées. Et ça, c'est très, très grave.
Est-ce que c'est un objectif politique? Parce que tu reparlais un peu de l'idée des deux peuples fondateurs, quand on a vu à quel point cette polémique a dépassé le cadre strictement québécois avec l'intervention de ce député du Nouveau-Brunswick. Oui. On peut aussi parler sur la question de la langue aussi, de récemment, avec le député franco-ontarien du Parti libéral qui s'est élevé contre les députés du Montreal Island. On va parler de Alexandra Lambropoulos, de M. Garneau et tout, dans la querelle sur la loi, sur les langues, sur la réforme, sur la loi sur les langues officielles. Tous ces éléments-là, toutes ces querelles, est-ce que, façon de parler aussi, d'un autre côté, Justin Trudeau s'en moque parce que son but, c'est de nettoyer, de passer outre cette idée des deux peuples fondateurs et de la briser à jamais pour lui dans son œuvre politique?
J'utiliserai pas le verbe nettoyer, j'aime pas la connotation de ce verbe-là, mais j'utiliserai plutôt, je verrais plutôt une espèce de ça participe au fait que le Canada, en se développant en État post-national, il va y avoir à un moment donné des concepts qu'on prenait pour acquis. Par exemple, les deux peuples fondateurs, le bilinguisme institutionnel, coast to coast, tout ça, ça va, à un moment donné, ça va passer à la trappe si on continue dans cette veine-là. Mais il n'y a rien qui dit que ça va continuer, que ça va se poursuivre, parce que l'espèce de hiatus, parce que c'est un hiatus quand on le place dans un contexte historique, mais cette période-là pendant laquelle Justin Trudeau va avoir été premier ministre, elle va prendre fin. Puis quand on voit justement comment Francis Drouin, ça c'est pas loin de chez moi non plus, là, dans le coin d'Hawkesbury, ce député-là, député libéral, qui a carrément lancé un pavé dans la mort hier, puis il a dit « OK, c'est assez, là ». Il a dit ce que beaucoup de gens pensaient dans le caucus libéral, de toute façon, là, que ces députés-là ils sont en train de déshonorer complètement ce que le parti tente de faire. Puis, mais tu sais, quand on regarde ça de manière froide, ben on se dit le bilinguisme institutionnel lui-même est appelé à disparaître. Puis dans un Canada post-national, il y aurait cette langue commune anglaise et ensuite toutes les communautés entre guillemets comme on les appelle qui sont là. Et puis pour moi, c'est comme une antithèse du vivre ensemble, parce qu'on le voit, là, quiconque voyage un peu en Ontario puis dans le Canada, il y a des collectivités qui s'installent, des communautés qui s'installent, puis elles sont assez homogènes. Et je ne sais pas à quel point, tu sais, si on crée des îlots comme ça de gens qui sont là et qui ont chacun le drapeau du Canada, puis à côté le drapeau du pays d'où ils viennent, est-ce qu'on construit vraiment un vivre ensemble ou est-ce qu'on... sinon... Moi, en tout cas, j'ai des doutes par rapport à cette vision-là. Je n'y ai jamais adhéré.
Revenons sur le rapport Agir contre la discrimination, ce rapport de 2018. Dans le rapport de 2018, il parle que pour agir, pour permettre ce vivre ensemble-là, il faut favoriser le dialogue interreligieux. Et donc, c'est pour ça qu'on crée ce poste de commissaire où Amira El-Gawabi a été nommée. Et ce poste de commissaire est placé sous l'autorité du ministre du patrimoine canadien, qui est pour l'instant Pablo Rodriguez. Cette proposition, à l'époque, était une proposition du Conseil national des musulmans canadiens et pour lequel Amira El-Gawabi avait milité à l'effet pour la création de cette direction dans le cadre de ce plan. Elle a été nommée un peu, sorte de remerciement, on ne sait pas. Mais en bref, c'était pour elle et aussi pour le Conseil national des musulmans canadiens, dans leur instance de lobbying, installer la religion au cœur du gouvernement central. Qu'est-ce que tu penses que c'est problématique, le fait que ne pas se rendre compte que tous ces éléments-là font partie du lobbying d'organismes religieux dans le cadre de alors qu'on est censé plutôt appliquer et faire des politiques de manière séculaire dans un pays tel que le Canada?
Ben, on est supposé, oui, mais ça fait longtemps qu'on a compris que, si on veut, le religieux était intrinsèquement lié à la pratique du pouvoir. Je veux dire, on n'a qu'à regarder comment se font les campagnes électorales au Canada et de plus en plus au Québec, ce clientélisme religieux. Parce que tu sais, il y a un peu de ça là-dedans. Justin Trudeau savait que ça déplairait aux Québécois, au Québec, cette nomination-là, mais en même temps, ça plaît à d'autres. Et parlant de ça, petite parenthèse, ça révèle aussi au Québec, à l'intérieur d'un parti comme Québec solidaire, on a foutu le bordel dans ce parti-là par cette nomination-là, parce qu'on voyait, on sait qu'il y a une frange non négligeable dans ce parti-là qui est tout à fait d'accord avec les propos de Mme El-Gawabi. Pas juste ça, il la félicite et il voudrait que ce soit entendu.
Il l'a dit,
cette nomination-là. Et le Conseil national la fin de semaine prochaine pour ce parti-là risque d'être houleux parce que déjà, je pense par exemple à Cybèle Attaogo.
Hier soir a fait une sortie sur ça.
Ah oui, écoute, c'est virulent, mais là, je regardais les réactions, les commentaires, et puis on voit là que c'est cette dame-là, elle était une des personnes qui était derrière le collectif décolonial antiraciste chez Québec solidaire. Et ce qu'on voit, c'est que chaque fois que Gabriel Nadeau-Dubois prend la parole sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, il y a des gens de sa propre chapelle politique qui lui disent ben non, là, vous avez erré tout ça. Donc, ferme la parenthèse, et on savait que ce serait clivant, cette nomination-là. Mais il y a aussi un but politique là-dedans. Et ce but politique-là, on va voir s'il va être atteint.
Réouvrons la parenthèse sur QS, si tu le souhaites, parce que tu t'y connais beaucoup sur ce parti, tu en parles souvent un peu de tout ce qui se passe à l'intérieur par tes sources, sur les réseaux sociaux, on peut te suivre sur Twitter à ce propos, et parlons de Cybèle El-Taghouaï, qui est quand même extrêmement important dans le milieu militant de QS, et un peu en arrière-garde. Il y a 4 jours, un poste, j'appuie la nomination de Amir Gharavi, et surtout la création de son poste, et je suis franchement tanné du Boys Club, du Bloc, de la CAQ, du PQ, et autres qui tentent encore une fois de discréditer une femme voilée. Elle s'en prend après à mots couverts à certaines personnes chez QS. Je suis encore plus tanné des députés soi-disant féministes et progressistes qui ont peur de dénoncer ses comportements. You know who you are. Et hier soir, avis aux camarades, je suis profondément dégoûté par Québec solidaire. Pour rappel, Québec solidaire a fait une sortie où finalement il s'opposait à la nomination de Mme El-Gawabi. Et tu pourras nous expliquer un peu comment il ce changement-là. Et outré des députés qui se disent progressistes et antiracistes, elle s'est particulièrement déçue de voir même Haroun Bouazi se laisser embarguer dans cette vague qu'elle appelle islamophobe. Qu'est-ce que tu penses que ça va être ce Conseil national ce week-end?
On va tout faire et probablement réussir à enterrer ça comme on réussit à enterrer les différents, puis les combats internes, les chicanes internes quand il est question de la langue, quand il est question du statut sur l'indépendance, on va réussir à enterrer ça le mieux possible, du moins on va tenter de le faire. Puis ou sur la laïcité aussi, j'avais eu la chance de parler avec 2 personnes différentes du collectif Laïcité à l'intérieur de Québec solidaire. Puis quand il y a eu le débat entre l'option A puis l'option B, ça avait été un débat absolument épouvantable. Puis on a fini par éjecter le collectif Laïcité de manière cavalière, puis c'était pas. Pendant ce temps-là, le collectif antiraciste, justement, de Mme Cybèle, ici, là, qui lui pouvait continuer à carrément, là, je veux dire, insulter les députés, l'aile parlementaire, puis ça, il n'y a pas de problème, on la garde. Mais pourquoi on garde cette aile-là? Parce que cette aile-là est très, très militante et que à un moment donné ou un autre, tu sais, là, on la gardait, mais à un moment donné ou un autre, ça va finir par éclater. Ça pourra pas cohabiter dans le parti éternellement. Puis à un moment donné, il y a des gens qui vont se tanner. Je te donne un exemple là, parce que c'est arrivé avec Sol Zanetti. Quand ça fait 5 ans que Jacques Parizeau était mort, Sol Zanetti avait fait un post sur Facebook puis où il avait écrit ben voilà, tu sais, il parlait de Jacques Parizeau, puis c'est un grand homme et tout ça. Puis à un moment donné, on s'était mis là, il avait reçu mais de sa propre formation politique des gens qui disaient c'est un raciste, puis tout ça, puis on se souvient là, la déclaration de suite après le référendum. Puis on lui rappelait ça, et il s'était fait carrément, là, mais tu sais, c'était disgracieux. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce parti-là, et ça peut pas toujours être comme ça. Fait qu'un jour, cette faction-là va finir par... Parce que c'est ça qu'elle dit, Cybèle Attaogo l'a dit. Nous, s'il n'y a pas ce parti-là, ben on va en fonder un autre. Mais il y a des gens qui attendent pendant ce temps-là des fédéralistes qui sont progressistes et qui adhèrent, par exemple, exactement ce que propose le NPD au fédéral. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps qu'on refasse le NPD Québec.
Le NPD Québec,
Vraiment sous la forme d'une formation multiculturaliste qui justement est dans la même lignée que ce qui arrive en ce moment au NPD au fédéral. Il y a des gens
totalement
qui
sont au Québec. Et à la fin, ça serait assez mortifère pour QS. Et je pense que probablement les personnes qui sont un peu plus sensées dans ce parti ou qui proposent une modération du parti pour espérer pouvoir sortir hors de Montréal au niveau de la députation, plus hors de Montréal, se disent que c'est un danger parce que c'est une fracturation du vote qui fera en sorte de les faire revenir un peu dans revenir un peu à l'écart. Et c'est assez dangereux, surtout à l'approche du Conseil national, quand on voit tout ce qui s'est passé, une campagne qui a été décevante pour eux. Dernièrement, ne pas savoir comment réagir face à Mme El Gawabi, une baisse dans les sondages, un PQ qui, dépendant des polémiques liées à ses propositions sur l'immigration ou au chemin Roxham, malgré ce que certains disent dans les médias, continue à pogner sur ce genre d'idées. C'est problématique pour QS sur les perspectives court et long terme.
Ben, c'est problématique, puis on est au début là, de la législature. C'est ce 4 ans-là. Moi, en tout cas, j'ai réussi à parler avec des gens qui sont là, qui militent depuis longtemps, certains même qui sont dans des instances importantes. Puis ce qu'on me dit, c'est que on n'est pas fâché que ça arrive maintenant. Puis dans 4 ans, on parlera plus. On verra si on parle encore de ça, sûrement pas. Mais il y a des discussions à y avoir, puis il y a comme une espèce d'éléphant dans la pièce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on brise. Les questions identitaires chez Québec solidaire, c'est tout le temps extrêmement compliqué. On l'a vu avec la langue aussi. Là, on parle de Mme El Gawabi, mais les gens qui sont pas contents que Québec solidaire ait finalement dit « Bon, ben voilà, on n'appuie pas ça », ben il a dit « Oui, mais on sait bien, vous avez appuyé la loi 96, puis on vient là-dessus ». C'est des contentieux internes qui sont très importants. Puis pendant ce temps-là, ben oui, moi je suis de l'Outaouais, puis je le sais, je connais des candidats qui ont porté les couleurs de Québec solidaire tout en étant de francs fédéralistes que tout le monde savait. Puis on se souvient en 2019 au conseil général, quand Gabriel Nadeau-Dubois avait dit non, il n'y a pas de fédéralistes chez Québec solidaire. Puis si vous êtes fédéraliste, ben votez pas pour nous. Moi, je peux dire que j'en connais des gens d'ici qui avaient porté les couleurs de Québec solidaire, qui disaient, c'est de la bouillie pour les chats, ils viennent nous chercher pour qu'on soit candidat, en sachant très bien qu'au fédéral, on est NPD, puis qu'on est progressiste, puis qu'en ce moment, ben la meilleure voie pour militer dans un parti franchement très à gauche, c'est Québec solidaire, même si on est fédéraliste. Puis ça, ben ça les a heurtés, c'est sûr.
Est-ce qu'on touche aux limites du modèle de ce parti, tu penses?
Moi, je pense ce parti-là a toujours été, n'est pas différent des partis au sein desquels j'ai milité à l'époque. J'avais été candidat pour le NPD Québec, mais la version 94. Paul Rose était à ce moment-là président du parti. Les dissensions internes à cette époque-là à propos de la question de l'indépendance étaient énormes. En 2006, quand Québec solidaire a été fondé, bon, après le Parti de la démocratie socialiste, le PDS, puis l'UFP, tout ça. Donc, moi, j'étais là, je continuais à militer à ce moment-là. Mais on voyait bien qu'il y avait il y a toujours eu des dissensions importantes. La réussite de Québec solidaire, ça a été quand même de ratisser assez large pour s'inscrire à l'intérieur des revendications puis des mouvements sociaux qui étaient très, très urbains. Donc ça a fonctionné. On a des comtés qu'on peut dire des comtés sûrs à Montréal, mais ce qui se passe, c'est que ce parti-là ne peut pas être en dehors du cadre de l'histoire, et puis Montréal se développe d'une telle façon très différemment du reste des régions. Fait que c'est difficile pour eux, parce que essayer de faire le pont entre la vision qu'ils défendent, par exemple, autour de l'UQAM puis Concordia, puis essayer de faire passer ça dans Rimouski, où pourtant ça aurait dû être un terrain quand même. Ça marche pas. C'est trop. Il y a trop des différences qui sont très radicales entre les deux, là.
Pour terminer sur l'idée de religieux, un peu pour revenir au sujet principal, si on a d'un côté tout ce qui est ce qu'on va appeler l'islam politique qui s'imbrique par la gauche, de l'autre côté, du côté de la droite, plus présent en Europe, mais ça commence à l'être un peu avec du côté conservateur, on a un retour d'un catholicisme ou d'un christianisme politique assez fort chez certains qui vont aussi utiliser par exemple le contexte de catophobie entre autres, qui est l'équivalent d'islamophobie, mais du côté de la religion catholique et de la religion chrétienne. Est-ce que c'est problématique aussi de voir ce genre de mouvement prendre quand on propose un élément, une société séculaire et qu'on essaye de sortir du carcan du religieux, de revoir un peu ces mouvements-là aussi prendre par une droite qui devient un peu plus forte? Ça permet un peu de prendre par rapport au Parti conservateur la question et certains de ses candidats.
Je suis content que tu abordes ça de cet angle-là, parce que quand Erin O'Toole faisait la course à la chefferie pour devenir chef du Parti conservateur, comment a-t-il réussi à être élu? Puis j'avais écrit là-dessus à l'époque, avec et j'en avais beaucoup religieuse. Parlé dans mes tribunes. C'était la droite religieuse la plus orthodoxe, la plus intégriste qu'il y a au Canada. Cette droite religieuse-là existe, elle est là, elle milite, Et quand on parle d'une nomination comme Mme El-Gawabi, c'est une chose, mais les tractations de cette droite-là, puis la proximité qu'elle a avec les députés, et c'est la même chose sur c'est les positions sur l'avortement, ils ont des dossiers sur tous les députés fédéraux, puis on est capable de cibler tout ça. Ça, c'est dangereux. Et cette extrême droite-là qui est très active sur les questions morales, sur les questions identitaires, sur les questions d'armes à feu et d'avortement et tout ça, elle est dangereuse. Elle est là. Est-ce que c'est la même chose qu'aux États-Unis? Pas du tout. Souvent, on peut dire qu'il y a des mouvements qui sont liés. Oui, ça existe, mais elle n'a pas cette ampleur-là. Puis, c'est difficile de dire que l'extrême droite américaine, en fait, c'est impossible de faire un rapprochement vraiment là qui tient la route entre la vigueur de l'extrême droite, ce qui s'est passé au Capitole, par exemple, puis ce qui arrive au Québec. Au Québec, on a pris l'élection générale, puis il n'y a personne qui a craché dans l'Assemblée nationale. Ouais. On n'est pas là. Mais il faut toujours garder un œil sur cette extrême droite-là parce qu'elle est très dangereuse.
C'est ça. Et surtout qu'au Canada, quand on voit comment elle agit beaucoup de manière plus pernicieuse, en bougeant un peu le curseur du débat politique pour faire en sorte que certaines libertés, ou par exemple l'avortement, on va pas modifier la loi, mais on va utiliser des débats par une sémantique assez différente pour aller chercher tel ou tel électeur indécis de telle ou telle manière. On va essayer de faire bouger le curseur pour que ça prendra peut-être 10, 20 ans, mais à la fin, l'idée chez tel ou tel électeur potentiel, elle aura changé. Et là, il sera beaucoup plus fragile pour peut-être accepter une telle modification de droit qui serait outrancière pour le Canada. Et donc, c'est là où on voit comment l'un utilise le politique assez fort du côté de l'islam politique, mais les autres, du côté de la droite, c'est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus vil, mais ça peut prendre du temps et à la fin, ça peut faire bien plus mal quand arrivera le moment où là, ils pourront passer l'attaque.
Elles se rejoignent. Souvenons-nous, je lisais ça récemment parce que ça m'est réapparu dans le cadre d'un texte que je préparais, mais je lisais ça récemment. En 2004, quand Salam El-Meniaoui militait auprès du ministre de la Justice, Jacques Dupuis, libéral à l'époque, pour la confessionnalisation, par exemple, de certains services au Québec. Ça fait longtemps, là, c'était du côté des musulmans. On le faisait, là, si on veut, les gens qui sont un petit peu de l'islam politique. Mais, tu sais, ça fait longtemps. Mais les intégristes religieux, peu importe leur confession, c'est ça qu'ils font. Puis c'est pas pour rien que quand on a tenu nos débats sur le projet de loi 60 du Parti québécois, sur les projets de loi 59 et 62 du Parti libéral qui était carrément, là, c'était une réponse aussi à ces débats-là, mais celui-là, ça allait vraiment dans tous les sens. Puis maintenant, le projet de loi 21, chaque fois qu'on a tenu ces débats-là, tout à coup, il y a eu comme une espèce d'union des forces orthodoxes, religieuses, de toute confession, pour s'opposer. Et ça, c'est ce qui me fait dire que quand on me dit, moi, la loi 21, c'est contre les femmes musulmanes voilées, attention, on habite ici dans une région du Québec où l'orthodoxie catholique est la plus forte. Et l'ancien président de la commission scolaire, d'une des commissions scolaires ici, que je connais bien, me disait, nous, les demandes d'accommodement qu'on reçoit sont jamais, c'est jamais de gens qui sont juifs, musulmans. Non, c'est catholique. Et ça fait longtemps que c'est comme ça parce qu'il y a un bastion ici de l'orthodoxie catholique depuis toujours. Donc, qu'on vienne pas me dire ça. C'est toutes les religions. Puis on veut créer un mur entre ces religions-là, puis l'institutionnel. Et c'est tout à fait légitime de le faire.
Toutes tes questions de communication. Merci beaucoup, Steve Fortin, d'avoir été avec nous ce midi. Tu reviens quand tu veux discuter de différents sujets. Tu sais que tu parles sur beaucoup de choses et que tu fais toujours des chroniques à la radio. On t'entend de temps en temps à Cube, à Radio-Canada. Tu écris aussi sur les différents sites HuffPost et autres. Et tu es un ex-candidat aux élections. Et est-ce qu'on va te réentendre à Cube Radio l'été prochain, comme cet été?
Je ne sais pas, on verra, mais en ce moment, j'ai une belle tribune avec l'ex-ministre libéral Marie Montpetit. Donc, Marie Montpetit. Discute.
C'est à Cube Radio et je te remercie d'avoir été avec nous ce midi. Merci à toi.
Salut bien.
Merci Steve. Steve Fortin avec nous ce midi. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un dernier numéro de ce remplacement de Jean-Philippe Trottier. Et aussi, on se retrouve vendredi, donc demain aussi, vendredi à 11h30 pour le numéro habituel du Monde d'aujourd'hui. Donc demain à 11h30, le Monde d'aujourd'hui. Et à midi, après les nouvelles de Radio Vatican, le dernier numéro de ce remplacement de Jean-Philippe Trottier. On recevra Guillaume Rousseau pour parler d'actualité provinciale, fédérale et plus en détail de la réforme des retraites. Passez une belle journée à Radio VM.